Dans tous les livres actuels, on donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins et l'on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l'univers. Jean Giono, Le Chant du Monde.
Pascal Paradou.
Cette citation de Jean Giono, écrite en 1934, est en exergue du roman de Denis Infante intitulé « Rousse ou les beaux habitants de l'univers ». Premier roman atypique aux allures de conte écologique, signé par un auteur tout aussi atypique qui vit loin des cercles littéraires parisiens. Bonjour Denis Infante.
Bonjour. Juste une insiste, vous avez un très beau générique.
Ah, merci. On remerciera Guillaume Ploquin qui était à l'origine de ce générique et qui l'a créé, l'ancien réalisateur de l'émission. Vous vivez donc dans les Cévennes.
Au bord des Cévennes, au pied des Cévennes.
Donc un peu loin. Alors vous allez me dire loin de quoi?
Loin de Paris, probablement, de Brasilia sûrement. Mais d'Alès, par exemple, pas très loin, un quart d'heure.
C'est un choix volontaire de votre part? Ça a été un choix de vie ou c'est
Le choix de vie, c'est de vivre loin des villes et à la campagne, disons, en général, si ça représente quelque chose. Parce que je suis incapable de vivre en ville, tout bêtement. Le choix, non, je me suis retrouvé là pour une sombre histoire, mais voilà, qui n'a pas d'intérêt.
Vous êtes près de la nature.
Oui,
c'est ça qui compte.
Oui, c'est ça qui compte.
Alors, néanmoins, dans la nature. Dans la nature. C'est important.
Oui, c'est dans la nature, parce que c'est vraiment, c'est une maison, mais autour, il y a tout. Il y a les arbres, la rivière. Enfin.
Alors néanmoins, dans les cercles littéraires parisiens, comme l'on dit, il y a un tel bouche à oreille autour de votre livre que c'est presque devenu un événement littéraire et vous êtes un auteur aujourd'hui très sollicité. Est-ce que vous avez conscience de cela?
En partie, parce que évidemment, déjà parce que ça change complètement mon quotidien, pour le fait, puisque voilà, ça fait déjà au moins trois fois, je crois, que je viens à Paris, etc. Alors que ça faisait 10 ans que je crois que j'avais pas mis les pieds à Paris. Oui, ça change beaucoup de choses. Donc je m'en rends compte à ce niveau-là. Après, le reste, pas vraiment. Sinon les articles, sinon d'être là. Pas vraiment, parce que peut-être qu'aussi je m'en protège un peu. Hein.
Mais c'est rare quand même pour un premier roman.
Alors, c'est un premier roman édité. Je tiens à bien préciser la chose. Ça doit être quelque chose comme mon 12e roman écrit. Donc, voilà.
Et il s'est passé quoi pour les précédents?
Il s'est passé que personne n'en a voulu.
Mais parce que vous les avez envoyés ou ils ont été refusés?
Pratiquement tous. Disons que j'ai au moins une dizaine sur les 12 ou 13 que j'ai écrits.
Et puis celui-là, bingo.
Alors, refuser, c'est pas le mot, parce qu'il n'y a pas de réponse. On ne peut pas parler de refus.
Et celui-là, bingo, donc.
Bingo, complètement. Très étonnant, parce qu'en plus, comme entre l'envoi du texte, qui était en 2019 ou 20, et l'acceptation des Tristrams, qui était l'an dernier, au mois de mars, je crois, il y a eu donc 2-3 ans, parce qu'il y avait le Covid entre-temps. Donc ça m'a encore plus tombé dessus, quoi, parce que je ne m'y attendais plus du tout. J'avais fait une croix, j'en ai écrit un autre d'ailleurs depuis, j'avais fait une croix sur Rousse, comme sur les autres.
Mais alors, pourquoi vous continuez à écrire si vous n'arriviez pas à publier? C'est un peu mystérieux.
Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Je ne pense pas qu'on écrive pour être publié. On écrit pour être publié, bien sûr, mais ce n'est pas la seule motivation. La motivation d'écriture, c'est l'écriture. Je crois que ça ne va vraiment pas plus loin que ça. C'est la nécessité, le besoin.
Et ce besoin, il se manifeste comment pour vous?
Il se manifeste quand je n'écris pas, je ne suis pas très bien. Quand j'écris, je ne suis pas très bien non plus. Parce que... non, voilà, c'est ça, c'est un besoin. Comme on a besoin de tas de choses, les sportifs d'aller à la piscine ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment un besoin.
Et vous vous mettez à votre table de travail et là, tout d'un coup, vous respirez.
Oui, on peut dire ça. Je respire quand j'ai écrit.
Comment vous dites-vous?
D'abord, quand je suis sur un roman, j'essaie d'être tous les matins, comme vous dites, à ma table de travail. Et alors après, il se passe quoi? Des fois, rien. Et puis des fois, quelques phrases, des fois un chapitre. Alors là, on est... Mais c'est un peu... J'aime pas trop écrire, c'est difficile. J'aime bien me relire, par contre, ça, je me régale.
Alors aujourd'hui, en tout cas, ce roman est dans toutes les librairies. Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui et a raison. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que ce livre rencontre le temps présent. Parce que le réchauffement climatique est devenu le sujet de préoccupation. Ça en est presque anxiogène, d'ailleurs.
C'est anxiogène. Et c'est une réalité. Il faut être inquiet, parce que c'est une grande inquiétude.
Mais vous en faites un conte. Un conte où les hommes ont disparu de la planète.
C'est bien après.
Seuls restent les animaux.
Ce que je pense qui va se passer.
Et c'est grave ?
C'est grave. Pour moi, c'est grave parce que j'ai des petits-enfants et des enfants, donc c'est grave. Mais sinon, non, c'est pas très grave. Ça fait quand même quelques milliers d'années qu'on met le why sur cette planète. Faut bien le reconnaître, quoi. Faut bien le reconnaître.
Et donc, la planète va se venger.
C'est pas une vengeance parce qu'il n'y a pas une conscience. Gaïa, je crois pas trop au phénomène Gaïa. C'est un état de fait. À Tchernobyl, je reparle de Tchernobyl, le titre initial de ce roman, c'était « Le nuage de Tchernobyl ». Et à Tchernobyl, on s'aperçoit que autant les vivants mobiles qu'immobiles, comme il est dit dans le texte, c'est-à-dire les arbres, les plantes et les animaux, s'en sortent relativement bien, même très bien, certains. Il y a des ennuis sur des individus, mais pas sur l'espèce, par exemple. Ils s'en sortent. Alors pourquoi ? C'est en étude, hein. On ne sait pas exactement comment ils s'en sortent, mais ils s'en sortent.
Et les animaux s'en sortent. Donc nous sommes des êtres mesquins, comme dit Giono.
Je pense, oui, en grande partie. Ouais.
Denis Infante, nous allons nous mettre dans les pas de Rousse, votre renarde. Mais pour l'heure, nous allons parler de théâtre, qui a été, je crois, votre premier métier,
votre ancienne passion. Toujours, je fais un peu. Bon, maintenant, je suis à la retraite. Mais je continue, un petit peu.
Vous avez fait du théâtre et du cinéma aussi.
Parce que le cinéma, il fallait venir à Paris, soyons clairs. Eh ben oui.
Oui, le repoussoir.
Oui, voilà. Alors que le théâtre, non, en province, même si on n'en parle jamais, on en parle peu dans les. Il y a du théâtre en province, de toutes sortes, dans la rue, dans le cirque, etc.
Eh bien, il y a du théâtre en province, en France, mais il y a du théâtre aussi ailleurs dans le monde. Ailleurs, à Brazzaville, avec Léa Chagnolot-Latouche. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de la programmation au sein de l'Institut français et vous préparez la Journée internationale du théâtre qui a lieu, comme tous les ans, le 27 mars. Est-ce que c'est une journée importante pour vous à l'Institut de Brazza ?
Bien sûr, c'est une journée qui est très importante à l'Institut français de Brazzaville. Cette année, nous sommes en partenariat avec l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale française pour mettre à l'honneur différents témoignages tout au long de la journée, et notamment le témoignage de jeunes, puisque nous appuyons l'opération le 27 mars Les enfants du siècle prennent la parole, qui est aussi une initiative de l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale. Donc, tout au long de la journée, nous allons avoir à la fois des représentations scolaires, une représentation professionnelle, des projections et des débats.
Donc, vous mettez l'accent sur le lien entre le théâtre et l'éducation.
Bien sûr, à titre d'exemple, nous accompagnons depuis début février une compagnie amateur de l'école Marie-Gérard de Brazzaville avec un des comédiens qui travaille à l'Institut français. Donc cette compagnie a été primée dans le cadre du FETESCO, Festival interscolaire de théâtre qui est aussi accueilli à l'Institut français. Et nous sommes en train de travailler à leur professionnalisation puisque le but, c'est que cette pièce puisse être à la fois jouée le 27 mars, puis plus tard, au mois de décembre, dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Mancina sur scène, aussi à l'Institut français.
Alors, vous évoquiez le Festival Mancina sur scène, qui a été créé par Dieudonné Nyanguna. C'est un festival important. C'est vrai qu'à Brazza, il y a aussi des auteurs, des autrices de renommée internationale. Le théâtre est vraiment vivant au quotidien ou c'est juste dans l'enclave de l'Institut français ?
Je crois que le théâtre n'est pas seulement présent au sein de l'Institut français de Brazzaville, qu'il y a beaucoup d'initiatives aussi à l'extérieur, que nous faisons en sorte aussi d'accompagner au mieux les artistes qui souhaitent prester au sein de l'Institut et que nous mettons à disposition des salles d'atelier pour des répétitions. Ce que je peux dire aussi par rapport, je reviens au 27 mars et par rapport à notre programmation, nous accueillons aussi donc, une compagnie de Pointe-Noire qui propose le spectacle Point Zéro du Triangle, qui est une pièce tirée du quatrième triangle de Sony Laboutancy, auteur congolais, où nous mettons à l'honneur aussi un rôle féminin, puisque ça nous semblait important durant le mois de mars de mettre à l'honneur des femmes comédiennes.
Merci Léa Chagnolo-Latouche. La journée internationale du théâtre, ce sera ce mercredi à l'Institut français de Brazzaville. Et petit rappel pour toutes les autrices et tous les auteurs de théâtre, l'appel à écriture pour la 11e édition du prix RFI Théâtre ouvre aujourd'hui.
Ne serait-ce qu'une fois, hélas, ne serait-ce qu'un instant fugace, les mains sales, les ongles pleins de crasse, aurais-je su toucher la grâce? Ne serait-ce même qu'en surface, avec le bout de la godasse, comme on pousse une vieille carcasse, aurais-je su toucher la grâce? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Aurais-je sans la voix cherché, parler devant, parlant de moi? Aurais-je su toucher les gens autant que ceux qui m'ont touché? Trouver la part d'humanité qu'on a tous indifféremment. Ne serait-ce fondre la glace, trouver une voie dans les congères jusqu'au cœur de mes congénères avant que je tombe en disgrâce. Aurais-je effleuré cette grâce?
Alain Chamfort, de grâce sur RFI, le dandy de la chanson française, sort son nouvel album L'Impermanence. Notre invité aujourd'hui dans De Vive Voix est Denis Infante, l'auteur de Rousse, un roman dont la protagoniste est une jeune renarde, un peu folle, dites-vous Denis Infante, intrépide, qui a décidé d'apprendre sur le monde et donc de parcourir le monde.
Oui, poussé par le manque d'eau, mais effectivement, ce n'est pas la seule motivation. La motivation, c'est de découvrir le monde.
Pourquoi elle veut découvrir le monde? Le terrier est trop petit?
Peut-être parce qu'elle est jeune, je ne sais pas. Et puis parce que c'est un individu. Ce n'est pas une renarde, c'est Rousse. C'est un individu. Les animaux sont des individus.
Dans votre roman?
Pas que dans mon roman. Dans la réalité, les animaux sont des individus. Quand vous côtoyez un peu les animaux, vous vous rendez compte que c'est des individus qui ont leur propre personnalité.
Donc, elle parcourt le monde, mais elle n'a pas le choix, comme vous le dites. Une catastrophe s'est abattue sur la planète. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est quoi, un grand feu?
Non, je pense que c'est plutôt le résultat de d'une guerre atomique, peut-être de ce qui est en train de nous arriver, c'est-à-dire une montée affolante de la température, Eux, ils ne savent pas. Ils ont pas. D'abord, on ne sait même pas quand ça s'est passé, cette aventure. Peut-être 100 ans, 1000 ans, on ne sait pas.
Donc, eux, les animaux, la nature subit, en fait.
Oui, en partie, oui. Elle subit de fait, par le, dans ce cas-là, il y a la sécheresse. Et puis, il y a des restes de, probablement de radiation, d'anciens feux, etc., etc. D'anciennes pollutions, tout simplement.
Il y a un des animaux, c'est le corbeau, qui dit que cela s'appelle ronge-morque.
De
ce qui s'est passé.
Oui, c'est ça. Ben, ronge-morque, ça veut dire un peu ce que ça veut dire. C'est ronge, ça ronge, hein, notamment les pollutions par irradiation. Et morque, c'est une déformation de mort, je suppose. Parce que je ne sais pas
comment ça, vous supposez, c'est vous qui l'écrivez.
Oui, mais il faut laisser un peu de place à l'imprévu, à l'imaginaire. On n'est pas obligé de tout savoir. Je crois que la grande force d'un roman, c'est quand quand le lecteur en apprend plus que ce qu'on a voulu dire, il me semble.
Donc ce mot de ronge-morque vous arrive comment ?
Je ne sais pas. Ça vient comme ça, au fil de l'écriture. J'écris sans plan, ça vient ou ça vient pas, quoi. C'est au fil de l'écriture.
En tout cas, dans ce roman, les hommes sont morts. Il reste quelques traces.
Ils ont disparu,
ouais. Ouais, ouais. Il reste quelques squelettes.
Ouais, et des artefacts.
Et il s'appelle Face-Plate.
C'est le nom qu'elle leur donne parce que on s'aperçoit que les mammifères, notamment, ils ont tous un museau. Alors que nous, on est des faces plates. Surtout à l'état de squelette, il n'y a même plus de nez. Donc, on est des faces plates. Voilà
donc,
pourquoi
ainsi,
les appellent comme ça.
Ainsi sommes-nous nommés par les animaux.
Oui, les animaux.
Ça se passe quand, cette histoire de rousse?
Eh bien, voilà, je ne sais pas. Ça se passe longtemps après le dernier jour, qui est le titre d'une longue, une très vieille histoire que j'avais écrite, que j'ai laissée tomber. Ça se passe longtemps après la fin des hommes, en tout cas. Alors, longtemps, c'est quoi? Je ne sais pas. Parce que les animaux n'ont pas le même compte que nous. Hein.
Ils comptent en lune?
Oui, ils comptent en lune, en saison, peut-être, je ne sais pas.
En jour?
En jour, mais pas en siècle, ni en dizaines d'années, ni en 13 ans ou 28 ans, ça, je ne pense pas. Sauf les corbeaux, d'ailleurs, qui comptent. Jusqu'à un certain point.
Donc, on ne sait pas trop quand ça se passe, mais ça se passe où ?
Dans la nature.
Dans la nature.
Ça se passe dans la nature. Oui, je ne sais pas où ça se passe. Peu importe, d'ailleurs. Ça se passe n'importe où dans le monde, si on peut dire. Peut-être, vu le genre d'animaux qui sont présents, c'est peut-être plus en Europe, mais bon, ça peut être en Amérique du Nord. Il y a des ours, il y a des loups.
Il n'y a pas beaucoup de crocodiles en Europe.
Alors, ce n'est pas des crocodiles. Et en plus, si ça s'est passé, effectivement, si l'histoire se passe X, 2 fois X, X au carré. Mon fils m'a appris les carrés l'autre jour, que j'ai du mal avec ça. Si ça se passe longtemps après nous, il se peut que les crocodiles reviennent ici, comme ils y étaient il y a 6000 ans, je pense, qu'il y avait des crocodiles, des rhinocéros laineux, des mammouths sur Terre.
Donc ils pourraient revenir dans la Seine ou dans le Rhône.
Peut-être. Et d'ailleurs, c'est pas des crocodiles, ce sont des crocodiles.
Des crocodiles, oui. Ouais. De la même manière que les éléphants sont des aliphants.
Ouais, ça c'est une déformation qui est corrigée d'ailleurs. Elle la corrige un peu.
Mais alors qui corrige crocodiles, c'est Rousse.
C'est l'éléphante qui la corrige. Alors que les crocodiles, c'est vraiment le nom parce que. Les crocodiles, il semblerait que peut-être justement c'est des animaux qui ont été profondément touchés par, on va parler des radiations pour faire simple, ou d'autres choses, et qui sont du côté noir de la force, on va dire, pour employer un terme bien connu. Il y a les kraken et les crocodiles qui sont...
Les méchants.
Oui, ils sont les méchants, ils sont en dehors du cycle. Les animaux, c'est des prédateurs, elles mangent, elles tuent, mais pour se nourrir, eux, ils tuent. Voilà.
Par principe.
Par principe, oui, c'est exactement.
C'est une drôle d'arche de Noé que vous faites vivre dans ces pages, Denis Infante, parce qu'il y a les crocodiles, il y a les aliphants, mais il y a aussi des ours, il y a un écureuil très sympathique que Rousse a envie de manger, mais finalement, elle s'aperçoit qu'il peut lui être utile et qu'il lui apporte des pommes. Et il y a aussi un corbeau noir ciel. C'est celui qui sait.
Oui, entre autres, ouais. C'est un maître. C'est un maître.
Pourquoi a-t-il cette supériorité, le corbeau ?
Parce qu'il sait, parce que c'est devenu un maître. Alors, de nouveau, c'est pour ça que je n'ai pas voulu la situer, cette histoire. Parce que peut-être que dans le jour où on disparaîtra, pourvu que ça soit dans longtemps, peut-être que 200, 300, 1000 ans après, les animaux auront changé de statut. Peut-être qu'ils auront pris encore plus de conscience, je ne sais pas. Et puis, c'est un conte.
C'est un conte. Mais en tout cas, on n'est pas du tout chez La Fontaine, avec ses fables Maître Corbeau et le renard. C'est presque l'inverse, parce que chez vous, dans ce conte, les animaux se parlent entre eux et ils s'aident. Il y a une forme de communauté, de solidarité entre eux, à part les méchants, les kraken.
Oui, ce qui ne les empêche pas, évidemment, de tuer pour manger. Hein. Elle se nourrit de sang, elle s'est dit d'ailleurs. C'est pas un conte pour enfants, je crois pas, même si les enfants, qu'ils le lisent. Allez-y, lisez-le, les enfants. Mais je ne l'ai pas écrit, je l'ai écrit pour personne d'ailleurs, mais surtout pas pour les enfants.
C'est lu par tout le monde aujourd'hui.
Oui, c'est lu par j'ai l'impression. Oui.
Donc, Rousse va prendre le chemin pour apprendre, pour découvrir le monde. Elle va échapper à une meute de loups, se prendre d'amitié pour ce fameux corbeau, pour une ourse qui va la protéger, pour un écureuil aussi. J'aimerais, Denis Infante, que vous nous lisiez un extrait de ce conte, Rousse ou les beaux habitants de l'univers.
C'était long ruban terne, s'enfonçant jusqu'au lointain, échappant à vue perçante de renardes. C'était comme lit de rivière aux eaux grises, figée, comme morte, osseuse. Rivière s'écoulant immobile vers lointain couchant, en droite ligne, à peine déviée de loin en loin par courbes larges et paresseuses. Rousse, humains riches et fluves, portés par brises légères, nombreux, variés, anciens ou récents. Elle ne décéla aucune odeur de danger. Elle sentit trace infime d'invisible eau libre. Piste grise à n'en pas douter, telle rivière affluente, rejoignait lit de grands fleuves en aval. C'était piste comme jamais Rousse n'en avait rencontrée, plus droite que jamais vue, plus lisse et régulière, plus dure, plus incompréhensible aussi. Rousse entendait le son de Noircel qui était maître, qui savait. Inconnu et source de savoir, savoir et source de vie.
Inconnu et source de savoir, savoir et source de vie. Depuis que j'ai refermé votre livre, Denis Infante, je ne cesse de repenser à ces deux phrases, à cette pensée. Vous n'avez pas à vous en excuser parce que ça me remplit et ça me ravit. J'ai le sentiment que c'est le cœur de ce conte philosophique. Le savoir vient de l'inconnu. On ne se le dit jamais assez.
Exactement. Quand on sait, c'est du savoir, mais la recherche du savoir, c'est la recherche de l'inconnu, de ce qu'on ne sait pas, bien sûr.
Oui, avant de savoir, il faut forcément risquer quelque chose.
Oui, tout à fait. Risquer, ne serait-ce que déjà, risquer ses propres convictions.
Alors, il y a cette phrase qui est si importante pour moi, mais on a aussi remarqué en vous écoutant, dans ce court extrait, que tous les articles définis ou indéfinis ont disparu, et cela tout au long du roman. Et je trouve que c'est assez impressionnant parce que cela change la phrase et la lecture.
Oui, je pense que c'était le but initial, au niveau de l'écriture, c'était c'est une sorte de contrainte, hein, comme je dis, je suis un Pérec au petit pied, lui il a enlevé les E, extraordinaire. C'était une contrainte, à la fois une contrainte pour essayer de trouver une nouvelle formulation. Et en même temps, j'ai l'impression que ça donnait un rythme différent, un rythme de quadrupède peut-être, je ne sais pas, à la phrase, si
donc,
on peut dire.
Donc ce serait le langage des animaux.
Il n'y a pas vraiment. Alors, il n'y a pas vraiment de dialogue. Hein, c'est plutôt des communications, on va dire. Ils communiquent entre eux. Il n'y a pas vraiment de dialogue. Il y a eu une faiblesse de ma part. Il a bien fallu que par moment je les fasse parler. Mais c'est jamais sous forme de dialogue.
Mais en tout cas, c'est au niveau des sensations.
Parce
que tout d'un coup, il y a quelque chose qui de brut, quoi, quelque chose qui saute au regard et à la pensée. Depuis nombreuses lunes, jours entiers, chemins gris, roches éparses. C'est aussi très pictural, je trouve.
Oui, et puis ça donne l'essence des choses un petit peu. De toute façon, j'écris beaucoup sur les sensations, hein, même les romans qui se passent de nos jours avec des gens comme vous et moi. J'écris beaucoup sur les sensations, les perceptions.
Et dans tous les cas, vous enlevez les articles?
Non, ça c'était pour celui-là, parce que voilà, c'est Rousse. D'autres, il y a d'autres petites astuces, mais non, pas du tout, oh là là, surtout pas, surtout pas.
Alors, je citais au début de l'émission Jean Giono, que vous mettez en exergue, puisqu'il y a une citation de lui en ouverture du livre. Giono, qui est cet immense auteur, né et mort à Manosque, au sud de la France, donc pas si loin de là où vous vivez.
Oui, c'est un peu les mêmes paysages.
Hein. C'est les mêmes paysages. Et il a énormément écrit justement sur les paysages et sur la place de l'homme dans l'univers. Écoutez-le.
Bien sûr, on ne peut pas s'extraire d'une façon totale du pays qui vous entoure. Fatalement, ce pays-là collabore avec vous et vous impose certaines formes de pensée. Ce sont ces formes de pensée que j'ai essayé d'exprimer dans presque toute mon œuvre. Des paysages comme ceux que j'ai sous les yeux sont également sous les yeux de mes personnages et par conséquent, je m'en sers. La ligne des collines, la forme des arbres, la couleur des oliviers, tout ça donne une sorte d'harmonie extraordinairement subtile et extraordinairement composée. Ce sont les raisons qui me donnent ma paix.
Denis Infante, est-ce qu'écrire vous apporte la paix aussi, comme le dit Jean Giono ?
Oui, comme je disais, une fois que j'ai écrit, ouais. Une fois que j'ai écrit. L'écriture, non, parce que c'est, bah pour moi, c'est difficile. C'est difficile à plusieurs niveaux. C'est difficile comme pour tous les auteurs. En plus, j'ai des problèmes avec la langue, avec l'orthographe, avec toutes ces choses. Mais une fois que j'ai écrit, oui, ça, c'est très jouissif. Se relire, je vous dis, c'est un pur bonheur quand c'est réussi.
Mais comment vous dites des problèmes avec la langue, avec l'orthographe,
bah, ce qu'on appelle d'orthographe, la dyslexie. Hein,
oui,
c'est,
bon. Ouais, oui.
Bah oui, mais c'est très 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 perturbant. C'est même plus que perturbant, c'est un handicap. C'est un handicap.
Donc c'est surmonter ce handicap que d'écrire pour
oui,
vous.
Oui, c'est ça, c'est peut-être l'une des raisons, pas la seule, hein, mais c'est peut-être l'une des raisons, ouais. C'est possible.
Est-ce que vous avez écrit, est-ce que vous écrivez en pensant à des maîtres ? Est-ce que par exemple Giono est important pour vous ?
Non,
est-ce que vous auriez
non.
pu écrire sans lui ?
Il est important en tant qu'auteur, c'est-à-dire qu'il est pour moi il est important parce que je suis un lecteur de Giono, mais sinon non, je pense pas avoir... Camus aussi est important, John Irving est important, James Harrison, non, il n'y a pas vraiment de maître au sens là. C'est, en tant que lecteur, c'est plutôt un maître qu'en tant qu'écrivain.
En tout cas, Giono, c'est un des auteurs que l'on a redécouvert ces derniers temps, parce que finalement, j'ai le sentiment que la nature, l'écologie a retrouvé droit de cité dans la littérature francophone, et c'est peut-être aussi pour ça que votre roman Rousse a tant de succès. Qu'est-ce
peut-être,
que vous pensez de ça?
Oui, c'est possible, tant mieux pour elle et pour moi. Mais Giono n'est pas qu'un écrivain de la nature, c'est quand même un écrivain des sentiments noirs de l'humanité, des humains. Quand vous lisez Un roi sans divertissement, c'est quand même c'est très très noir. Et Le monde et autres caractères, c'est très noir. Dans un texte, il dit... ça se passe sur les hauteurs de Manosque, enfin de la Provence. Et il décrit toutes les fermes où il y a eu des pendus. Tous les 3 km, il y a eu un pendu. C'est pas nouveau que les agriculteurs se pendent, hein, pour peut-être d'autres raisons à l'époque. Mais ouais, c'est très noir, Giono.
Oui, c'est dans Que ma joie demeure, il y a comme ça toute une série de meurtres et de morts. Alors, à votre propos, je parlais de romans écologiques. Est-ce que c'est un mot qui vous va ?
Non, pas vraiment, parce que c'était pas le but initial, c'était pas ça. Hein. Je pense que c'était d'ailleurs le but initial. Mais probablement pas de faire un roman écologique. Il se trouve que, bien sûr, c'est un souci présent, actuel, donc il est présent dans le roman. Et puis c'était une dynamique du roman.
C'est un roman heureux ?
Oui, je pense.
Malgré l'apocalypse, malgré la disparition des hommes ?
Oui, parce que les animaux, ils n'en souffrent pas tellement de ça, finalement. Ils en souffrent parce que y a des ravages, mais ils sont bien dans leur monde, ces animaux. Ils vont jusqu'au bout, elle va jusqu'au bout, elle.
Elle va découvrir la mer.
Elle va découvrir, oui. Oui, ça, je reconnaissais aussi une faiblesse de ma part. Tous mes romans se passent à un moment de note. S'il n'y a pas la mer, je ne suis pas bien. Donc, elle va découvrir la mer, l'eau amère du monde. Et c'est sa fin en même temps, bien sûr.
Parce que elle va dire « je ».
Ouais, je veux dire,
au même titre qu'un humain, ouais, je pense donc je suis, disait Descartes, Rousse dit je.
Oui, à un moment donné, ouais, il y a un passage dans le roman, un passage au sens matériel du terme, il y a un passage, et à partir de là, bah, c'est un autre niveau de conscience.
Merci beaucoup Denis Infante de ce magnifique livre « Rousse sous les beaux habits de l'univers » édité chez Tristam, qui est une petite maison d'édition du sud de la France qui
petite
fait un boulot formidable. Petite mais costaud. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Olivier Roux, à demain.